Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et j'ai de nouveau le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Marcher vers le bien-être. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure. Notre destination, la jolie petite ville touristique de Tofino, sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Tofino, c'est aussi un port de pêche très actif et la mecque du surf au nord de la Californie. D'ailleurs, par moments, on se croirait vraiment en Californie et sa génération de jeunes aux cheveux longs a l'air décontractée et semble-t-il pas un souci au monde. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, Tofino est notre camp de base pour une série de randonnées pédestres auxquelles j'ai participé récemment dans cette magnifique région, reconnue pour ses anciennes forêts pluviales, ses arbres plus que millénaires, la grande diversité de sa faune, ses longues plages indomptées et ses établissements humains qui remontent à plus de 4000 ans. Notre guide lors de ce voyage organisé hors du commun est un habitué de notre émission. Il s'agit de Michel Desgagnés de l'organisme Santé à pied. Au cours des deux premières saisons de Marcher vers le bien-être, Michel et Marilyn Étier, aussi de Santé à pied, nous ont initiés au bain de forêt, à l'art de marcher correctement, à la marche nordique et la progression de la marche passive vers la marche active. Je vous invite d'ailleurs à consulter ces entrevues archivées sur le site jemarchepartout.com. Alors, bonjour Michel et merci de ce retour très apprécié à l'émission.
Il me fait plaisir de retrouver ton auditoire, surtout de marcheuses et de marcheurs.
Voilà. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir en studio une des vaillantes participantes de ce voyage organisé, Linda Liboiron. Merci Linda d'avoir pris le temps de vous joindre à nous et de partager vos impressions et vos réflexions.
Ça me fait grand plaisir.
Alors, au cours de l'émission, nous allons donc revivre des moments inoubliables en pleine forêt ancienne et sur la plage et des rencontres tout aussi mémorables avec des représentants de la communauté autochtone de Tofino. Avant de partir, Michel, dites-nous en quelques mots, c'est quoi Santé à pied?
D'abord, Santé à pied, c'est un groupe de marche de bonne foi qu'on a créé, Marilyn et moi, pour marcher dans les sentiers du parc national du Mont-Saint-Bruno. Et lorsque nous avons pris notre retraite du milieu de la communication, stressés comme nous étions, nous nous demandions quoi faire avec nos corps. Nous avons travaillé avec notre tête toute notre vie. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de notre corps? Mais finalement, on s'est formé à différentes techniques de marche. D'abord, la première, c'est de passer et d'apprendre à passer de la marche passive à la marche active.
Voilà.
Et ensuite est arrivé au début des années 2000 au Québec un nouvel type de marche, une marche technique plutôt, qui s'appelle la marche nordique. Mm-hmm. On en a parlé ici.
On en a parlé aussi, oui.
Et la marche afghane et la marche Shinrin-Yoku, vous en avez parlé, le bain de forêt. On a créé donc des groupes de marche autour de ces techniques-là sur les sentiers du Mont-Saint-Bruno. Et au fil des ans, les gens nous ont demandé, est-ce qu'on peut aller faire de la longue randonnée?
Mmh.
Alors, comme Marilyn et moi, nous avions fait en 2015 la Rota Vicentina au Portugal, donc
oui.
Qui se divise en deux, soit la route patrimoniale ou encore le sentier des pêcheurs. Pendant 10 jours, sur 150 kilomètres, nous avons emmené nos groupes, peu importe leurs conditions physiques, leur détermination et le courage étant ce qu'il est, nous avons réussi à vivre des moments absolument extraordinaires avec les groupes. Cette année, nous en étions à notre 8e
déjà,
randonnée.
Oui,
sur,
oui.
Et nous avons décidé également d'ajouter cette année au programme annuel de longues marches, la fameuse marche dans le Nutchatnult, c'est-à-dire le territoire des Tlaoqiat, dans la région de Tofino.
Mm-hmm. Donc, parlez-nous un peu du programme, parce que, évidemment, je l'ai vécu, j'ai trouvé absolument fabuleux, mais peut-être un petit tour d'horizon des activités pour qu'on puisse aller plus en détail dans quelques instants.
L'idée du programme, assez curieusement, vient d'une réflexion qui m'a été beaucoup inspirée par la commission Vérité et Réconciliation avec les Premières Nations. Ayant fréquenté cette région-là à plusieurs reprises parce que mon fils y habite, j'ai vu effectivement la condition des indigènes, en fait, des Premières Nations, qui étaient pas plus brillante que celle qu'on remarque à peu près partout à travers le Canada. Et j'avais le goût de m'approcher d'eux, étant non-indien moi-même. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un groupe de marche, puisque c'est un territoire fabuleux, comme vous l'avez découvert, et en même temps, connecter avec les Premières Nations de la région entre Yukluwilut et Tofino. Et c'est comme ça que s'est monté un programme autour d'un endroit qui appartient aux populations autochtones, qui s'appelle, entre autres, le jardin botanique Nuwayasom, qui est un jardin botanique consacré à l'écosystème du lieu. Un écolodge absolument extraordinaire de 12 chambres, un édifice en bois typiquement de la côte ouest, magnifique. Et donc, on s'est dit, pourquoi je ne louerais pas les 12 chambres en question et avec ces gens-là, de travailler sur une meilleure connaissance entre nous. Et ça, c'est comme ça que ça s'est noué finalement. Et là, j'ai cherché des intervenants. L'auberge comme telle m'a demandé d'abord d'avoir quel était notre programme. Parce que c'est un organisme à but non lucratif et ils ne sont pas là pour faire un resort ou un centre de villégiature au-là avec des gentils organisateurs. C'est plutôt des gens qui est un learning center, donc un centre d'apprentissage finalement. Et ils ont accepté sur la foi du programme que nous leur avions présenté de nous accueillir pendant 10 jours dans cette auberge-là. Et c'est à partir de cette auberge-là que nous avons rayonné sur différentes destinations sur la péninsule comme telle.
Tout à fait extraordinaire. Et Linda, qu'est-ce qui vous a incité à participer, en fait, à vouloir prendre l'avion et aller marcher pendant ces dizaines de jours-là?
J'avais déjà été au Portugal avec Santé à pied et c'était une expérience extraordinaire. Et lorsque Michel nous a téléphoné en nous expliquant le programme, l'endroit où c'était, ça convenait parfaitement, même avec tous nos espoirs, dans le sens que on allait parler d'environnement, on allait voir des choses extraordinaires, puis on allait rencontrer encore plus en profondeur la réalité autochtone de cet endroit-là. Alors, ça a été un oui immédiat.
Et spontané, enthousiaste.
Oui.
Alors, Michel, vous en avez fait allusion il y a quelques instants à ce jardin botanique. Alors, nous sommes tous les 20, 21 convives. Nous sommes dans ce magnifique lodge. C'est un peu comme une colonie de vacances. On apprend à se connaître, on mange ensemble, etc. Et puis, la première étape, c'est vraiment ce magnifique petit jardin botanique qui s'est prêté merveilleusement bien à une mini randonnée, mais on a découvert des choses vraiment exceptionnelles. Alors, vous nous en parlez.
Ben, c'est-à-dire que j'ai été très ému dès le lendemain de notre arrivée au jardin botanique, à l'écolodge, bon, ainsi de suite. Qu'est-ce qui m'a ému tant, c'est dans le programme, oui, j'avais bien mis une familiarisation avec l'engagement du respect des lieux. Le Idzak Pledge. Mais ce qui m'a extrêmement séduit, c'est le fait qu'on a monté le 1er août dans le jardin botanique un nouveau totem, le Nawas. Nawas qui réfère à cet esprit qui réunit les chants, les poèmes et l'histoire des Premières Nations. Dans ce cas-ci, on parle des Tlaokiat, qui est vraiment le nom, et assez curieusement, on anglicise beaucoup, ça fait partie un peu des habitudes coloniales. Un des sounds qui est là, on a appelé les Nootka Sound, et on les a connus comme Nootka, comme on a connu les Haïda, qui sont plus au nord, dans l'archipel des îles de la Reine-Charlotte. Nous étions sur la côte ouest de l'île de Vancouver, donc en face de cet immense océan. Alors, j'étais extrêmement touché par le fait que les 22 personnes, nous étions 24 en tout, étaient assises le matin à l'extérieur devant le totem et Sitcha qui était notre hôte Tlaoki de l'endroit, nous explique tout le scénario du totem et nous fait prendre l'engagement du respect à la fois du territoire, du respect de ses habitants, du respect, enfin, de l'environnement. Et ça m'a touché beaucoup parce que ça ouvrait, ça inaugurait en quelque sorte les 9 autres jours que nous passerions ensemble sur le territoire.
Alors, le mot respect revient à plusieurs reprises pendant notre voyage. Alors, toujours ce petit jardin botanique, c'est une randonnée toute courte, mais tellement intéressante. On retrouve des plantes, des plantes extraordinaires, des plantes qu'on ne voit qu'en Colombie-Britannique, j'imagine, ou sur la côte, et ainsi de suite. Oui. Donc, le jardin botanique en soi, c'est une belle aventure.
Oui, et je dois dire qu'elle se termine, en fait, le trajet du circuit du jardin se termine par une sculpture, en fait, une sculpture assez curieusement, c'est une pirogue, une pirogue de chasseurs de baleines, puisque les gens qui nous reçoivent sont les descendants de ces chasseurs de baleines. Vous parliez tantôt de 4000 ans d'occupation du territoire.
Oui.
Et donc, on est devant une véritable pirogue faite selon les règles de l'art par un des sculpteurs qui est un des anciens de la région là-bas. Et on a une ambiance où on est vraiment dans une forêt pluviale avec tous les éléments floristiques, évidemment aussi, et les espèces d'arbres. Évidemment, ce n'est pas une forêt ancienne comme nous allons la retrouver quelques jours plus tard. Mais il reste qu'on a là une espèce de, comment on appelle ça, pas un succès d'année, pas une espèce de synthèse, si on veut, effectivement, de cette nature-là, à portée de main, puisque, en fait, l'écologe se situe au centre de ce jardin-là.
Voilà, voilà. Alors, on dépasse un petit peu. Linda, qu'est-ce que vous avez pensé? Je vous regarde maintenant là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce merveilleux petit jardin botanique?
Ben, c'était une belle entrée en matière, finalement, de pouvoir y circuler. Mm-hmm. Alors, moi, ça répondait déjà à mes attentes.
Une belle façon de commencer le voyage.
Oui. Oui, et si je peux me permettre, ça permet de décoder ensuite les éléments écosystémiques que nous allons découvrir en route. Tiens, comme par exemple le fameux skunk gabbage, qui est une plante endémique là-bas. Okay.
On va en parler tout à l'heure, parce que c'est tout à fait comique.
Parfait.
Oui, oui, c'est une belle anecdote.
Je ne vais pas vendre tous les punchs.
Mais pour l'instant, nous passons de ce petit jardin botanique, et là, c'est vraiment une belle promenade, c'est la randonnée sur le sentier qui longe les plages Mackenzie Beach devant le Pacifique et ainsi de suite. Et là aussi, on retrouve des paysages fabuleux.
Ah ben là, c'est le premier contact que nous avons avec le Pacifique comme tel. Donc, on pourrait marcher pieds nus, d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait, sur cette plage qui est à peu près d'un kilomètre et demi, qui donne sur une autre plage. Entre les deux, il y a un sentier, évidemment, qui nous permet de franchir une espèce de côte où il y a un cap, sur lequel se trouve d'ailleurs une auberge. L'autre nous amène à Middle Beach. Middle Beach, qui est un endroit magnifique pour faire du yoga ou de la méditation. Il n'y a jamais personne qui s'y trouve.
Oui,
c'est
oui.
extraordinaire.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ensuite, on passe à un autre cap rocheux pour se retrouver sur Tonkin Beach. Tonkin, en fait, il faut savoir que c'est le nom d'une embarcation marchande à voile du 19e siècle menée par des Bostonnais, donc des marchands américains. Et pourquoi on l'appelle Tonkin? Parce que les Tlaoquiat.
Ça fait asiatique un peu.
Ah oui, effectivement, parce que ce bateau-là, en fait, c'est un commerce triangulaire, venait chercher des peaux de loutre de mer à Tofino, en fait, cette région-là, et les amenait en Chine ensuite, et ramenait de Chine aux États-Unis les breloques que déjà la Chine produisait au 19e siècle. Donc, on l'appelle Tonkin, pourquoi? Parce qu'une grande réalité terrible venait d'affecter les populations indigènes de la côte et, entre autres, beaucoup de viols ou d'agressions des femmes indiennes par ces bateaux marchands qui venaient mouiller parfois pour, évidemment, chercher des produits, mais en même temps aussi se refaire un peu. Et ça a tellement ébranlé, dans le fond, la conscience des Tlaoquiat qu'ils sont partis un jour, ont intercepté le Tonkin juste avant l'entrée du port de Tofino et on massacrait tous les individus. Donc, ça s'est appelé Tonkin. D'ailleurs, on peut retrouver l'ancrage du Tonkin encore exposé à Tofino. Mais c'était la première fois, véritablement, depuis 1774, c'est-à-dire depuis la découverte par les Espagnols de populations indigènes sur la côte, qu'il y avait eu une telle réaction de la part des Premières Nations face aux Blancs. Mais à part cette... C'est intéressant de savoir que le vrai nom de cet endroit, le nom original, au lieu d'être le Tonkin Beach, c'était le Standing Whale. On dit en anglais parce que j'ai pas la phonétique.
Le Standing Whale, la baleine.
Standing Whale, donc parce que c'est là où effectivement on pouvait arriver à diriger les baleines qui étaient sur la côte, à l'époque où évidemment ils remontent ou ils redescendent vers l'Alaska ou vers la Californie, selon les saisons, bien sûr. Et c'était là où, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... C'était un piège extraordinaire, en fait, pour des chasseurs de baleines.
Okay? D'accord.
Mais oui, comme c'est de là qu'on est parti, effectivement, pour faire l'abordage de ce bateau marchand, finalement, on l'a appelé Tonkin, Tonkin Beach, qui nous a amené, d'ailleurs, à découvrir, ce premier jour de marche, le village de Tofino, puisqu'il aboutit, c'est comme ça, tel, oui, au village de Tofino.
Oui. Et Linda, vous avez participé à cette marche, bien sûr.
Oui.
Sur le sentier, qu'est-ce qui vous a frappé? Est-ce que c'était la faune? Est-ce que c'était les paysages? Qu'est-ce qui vous a...
Ben, je pense que c'était les paysages, mais aussi c'était la force du groupe. Mes collègues avec qui je marchais, parce que je les connaissais pas, et puis d'entrer en contact. En fait, j'ai peut-être pas tant regardé que ça. Merci, Michel. Michel, vous m'avez renseigné sur des choses que j'avais oubliées. Mais c'était le côté humain qui, je dirais, là, cette première journée-là, qui m'a le plus intéressé.
Et en fait, c'est une des caractéristiques de ces marches de longue durée, que ce soit en Colombie-Britannique ou au Portugal ou quoi que ce soit, ce sont les liens qui se créent entre les marchands,
oui,
entre les individus, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est à la intéressant. Base. J'aime beaucoup la remarque de Linda, ce côté humain. Nous sommes des gens qui arrivons à un âge où parmi nous, il y en a beaucoup qui souffrent d'isolement. Hein, ils ne sont plus au travail, les réseaux se sont un petit peu atténués avec le temps, puis on se retrouve seul. Or, la marche en groupe sur des longues randonnées, mais accessible, attention, accessible.
Oui,
hein?
Oui.
On était plutôt sur le plat. Il n'y avait pas de montée, en dépit du fait que nous étions sur la côte ouest. Mais au Portugal, c'est pareil, c'est du plat parce que c'est une falaise qui longe l'Atlantique. L'idée de l'humain là-dedans est fondamentale pour nous et c'est pour ça que je pourrais prendre l'image que nous avions l'air d'une bande de hippies de 70 ans dans ce lieu-là parce que tout le monde, on n'a plus rien de toute façon. Hein, nos ambitions sont soit réalisées ou pas, mais peu importe. Ce qui est important, c'est finalement, on se regarde et il y a une espèce d'amitié qui vient éclore là-dedans, qui est extraordinaire. Oui. Mais ça nous éloigne évidemment des trajets.
Mais c'est quand même à la base, hein, de la communication, parce que si on regarde la pyramide de Maslow, bon, les besoins essentiels doivent être remplis, mais après ça, c'est toute l'acceptation sociale avant d'arriver au paysage, à l'histoire, etc. Puis si cette base-là n'est pas faite, on ne fait pas un beau voyage. Puis ça, on le voit beaucoup dans nos visites dans les musées, là.
Et la nature, l'environnement nous aide justement dans cette démarche de communication, de rapprochement, n'est-ce pas?
Oui, on a beaucoup envie de communiquer, on a beaucoup envie même de se câliner dans le fond. Tu sais, quand on se retrouve le matin, au petit déjeuner, parce qu'on avait un chef extraordinaire.
Extraordinaire!
Bien, on avait tous envie de se serrer. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, qu'on a pris la grippe ou le rhume de l'un ou de l'autre. Oui,
il y en a qui l'ont encore.
Oui, il y en a.
Bon, là, enfin, c'est intéressant, vous parliez de hippie, et en début d'émission, je parlais de la Californie du Nord, si vous voulez, là, le surf, les jeunes aux cheveux longs. Et on le sent dans la ville, ça. On se promène un peu dans la ville et on sent que, oups, on est ailleurs un tout petit peu. Là. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois la British Columbia. La British California, plutôt.
Oui,
c'est intéressant, intéressant. Alors, bon, ça a été la première étape. Cette marche le long du sentier qui borde ces plages magnifiques. Et on revient au Skunk Cabin. Beach.
Oui, on en a vu.
J'attendais
hein,
tout petit peu.
C'est ça.
Donc, c'est une randonnée écologique qui est guidée ou animée par une spécialiste d'un organisme qui s'appelle Raincoat Education Society,
ouais.
qui nous parle de l'écosystème. Mais c'est une forêt pluviale, dans le fond, qui est peut-être un petit peu moins ancienne, mais qui est quand même pluviale, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, absolument. Mais en fait, la Raincoat Education Society, ça vaut la peine d'en dire un mot, parce que ça a été aussi pour nous un engagement.
Oui,
d'avoir des gens très compétents qui nous amènent dans la nature et qui sont capables de la décoder. Mais de la décoder un petit peu en faisant un scénario, une histoire. Et la personne hein, était extrêmement empathique et tout le monde était empathique envers elle. Et on cheminait sur la valeur d'à peu près 2 kilomètres qui nous emmenait vers les Vézières, en fait, de cette péninsule-là. La Raincoat Education Society, que je connais depuis plusieurs années, est un organisme à but non lucratif d'éducation, mais pour tous les âges. Il s'occupe, par exemple, des jours d'été, là, comment on appelle
les
ça?
Camps,
des camps d'été,
camps de
c'est ça, des camps de jour avec les enfants. Mais ils reçoivent aussi des aînés, des groupes d'aînés pour leur expliquer, leur faire comprendre la nature qui est là. Ça nous sensibilise énormément ensuite aux effets des changements climatiques.
Oui, justement.
Hein?
Oui.
Donc, dans ce sens-là, je trouve qu'ils font une œuvre, une grande œuvre d'éducation, Raincoat. Et c'est important pour nous, dans le programme, de tout de suite nous familiariser avec la forêt, le type de forêt, le type de terrain, de matériaux et tout ça, de telle sorte que tous les autres ne nous apparaissent pas comme un joli exotisme, mais dont on n'est rien, on ne comprend rien.
Ça a mis la base, finalement, là, pour notre regard par la suite. Là. Mm-hmm. C'était vraiment intéressant.
Alors, l'État, allez-y.
C'est là que j'ai découvert qu'il fallait manger des épines de bruche.
Ah, ça, c'est intéressant.
Là, il faut falloir que je... c'est notre guide là, qui disait, essayez, ça goûte le citron. Et c'est tellement bon. Je pense que je vais en planter un si j'en trouve.
Et j'imagine qu'il y a un côté médicinal aussi à tout ça.
Oui, en tout cas, je sais que pour les ours, c'est ce que j'ai appris aussi, parce que si on revient au skunk cabbage, lors de la fin de l'hibernation, ils vont prendre les racines
Les ours, c'est ça.
Les ours vont chercher, ils vont déraciner la plante.
Il faut peut-être mentionner au début que le skunk cabbage, donc on pourrait l'appeler un chou d'hiver, de moufette.
Durant l'hiver. L'odeur assez forte.
Oui. Ben c'est ça, la plante, la fleur dégage une odeur tellement forte que l'ours va se réveiller. Et là, c'est la suite que vous allez raconter,
exactement.
C'est ça?
Bravo. Effectivement, c'est assez pour réveiller un ours. Mais effectivement. Et donc, l'ours, ayant identifié, évidemment, la plante, on est au printemps, alors il va arracher la plante pour manger ses racines.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est un diurétique. Et c'est assez bon pour nettoyer un estomac après un hiver à rien faire, en fait. Mais le skunk cabbage, c'est une plante qui est endémique là-bas, qu'on a vu, en fait, qu'on avait vu la veille d'ailleurs, mais qu'on ne savait pas comment l'identifier. Et là, tout à coup, on apprend, mais on n'apprend pas juste le nom de la plante. On attend son utilité dans le biome comme tel. Ça sert à quelque chose, tu sais.
On verra plus tard que tout est interrelié. C'est l'interdépendance
mon Dieu,
de
merci,
tout.
Merci, je vois que nous allons.
Oui. À petits pas, comme ça, lentement. Et nous allons maintenant prendre une petite pause musicale pour revenir. Et là, ça a été, je pense, une des plus belles découvertes de ce voyage. Les anciennes forêts pluviales et ces arbres qui datent d'environ 2500 ans. On revient tout de suite. Thank you. Alors, nous sommes en compagnie de Michel Desgagnés et Linda Liboiron. Nous avons participé à un merveilleux voyage en Colombie-Britannique, près de Tofino, sur l'île de Vancouver. Et là, nous allons découvrir les anciennes forêts pluviales. Ça a été vraiment merveilleux comme découverte. Alors, je ne sais pas si, Linda, tu veux peut-être lancer le bal.
Commencer,
oui,
peut-être.
Oui.
Ah oui, certainement. Moi, je me suis sentie dans le monde jurassique. C'est vraiment, là, c'est de voir, d'entrer dans cette île-là et puis de faire le sentier et de voir ces immenses arbres-là et toute la végétation qui pousse dessus. Mm-hmm. Un arbre tombé, il y a un arbre qui pousse dessus, etc. Moi, je me suis attendue tout le long de voir un dinosaure qui allait, qui allait sortir dans les...
C'est vrai, hein?
Ah oui. Puis l'odeur. Oui. L'odeur, c'est... On respire, puis c'est très, très... La veille, on avait appris que la végétation, les arbres nous donnent de l'oxygène, mais aussi le sol, la décomposition sur le sol. Alors, c'était vraiment magnifique.
Michel, parlez-nous du concept, en fait, des anciennes forêts pluviales.
Oui, en fait, on l'appelle d'ailleurs un tribal park maintenant. Mm-hmm. C'est assez nouveau, mais il faut dire aussi que c'est inspiré beaucoup par une bataille absolument incroyable menée par des Premières Nations et des groupes environnementalistes dans les années 1980, parce que la forêt que nous avons découvert en faisant un bain de forêt, Meres Island, dont vous parliez, Linda, elle était menacée, effectivement, puisque les droits de coupe appartenaient à une grande, grande compagnie forestière et elle s'apprêtait, effectivement, à entrer avec des sièges chaînes et tout l'équipement. Et les Premières Nations, les Haussit et les Tlaoukiat, se sont mobilisés à ce moment-là et de façon très polie ont accueilli les travailleurs, mais en leur disant « Vous êtes les bienvenus pour visiter notre forêt, mais laissez, s'il vous plaît, vos outils ici. » Et de fil en aiguille, il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler un « war for the woods », une guerre pour la préservation de la forêt, qui s'est enclenchée. Et si les gens veulent en savoir plus, c'est pour ça que nous avons démontré la veille à tous nos marcheuses et nos marcheurs, un documentaire tourné par la CBC dans les années 90 et qui fait un très, très bon survol de cette bataille qui nous a permis de sauver cette forêt ancienne. Donc, les gens étaient au courant que grâce, entre autres, à notre guide, à notre hôte, Sitcha, qui s'est battu pour la protéger également. Et le lendemain, on s'est retrouvés dans cette forêt.
Il faut dire que... Oui, Linda?
Bien, en fait, c'est une aparté qui n'en est pas une. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter l'exposition « Voix autochtones d'aujourd'hui » au Musée McCord.
Oui, magnifique exposition.
C'est une magnifique exposition où on sent la fierté aussi de la culture et aussi la difficulté qu'ils ont vécu grâce à nous. Mais le message que je retiens le plus, c'est nous sommes fiers de ce que nous sommes et écoutez-nous. Puis moi, ce dont je suis fière, c'est que dans notre voyage, c'est ça qu'on a fait. On a admiré, on a vraiment échangé, puis on a écouté. Ça fait que je pense qu'on a bien répondu aux vœux de la population autochtone.
Alors d'ailleurs, Michel va nous éclairer vers la fin de l'entrevue de certaines rencontres ou certaines présentations que nous avons eu le plaisir d'avoir pendant ce voyage. Je reviens encore une fois aux anciennes forêts pluviales. En partie, c'est que il n'y a pas d'hiver là-bas, donc il peut y avoir une croissance continue des plantes. Les conditions sont telles que les arbres peuvent atteindre 1000 ans, 2000 ans, et on en a vu un, The Hanging Garden, 2500 ans, et ils ont côtoyé, ou les Autochtones de l'époque ont côtoyé ces arbres-là, donc on peut ressentir, on peut reconnaître aussi l'attachement à ces forêts.
Et on peut comprendre également que toute cette vie, ce biome extrêmement dynamique, provoque aussi des difficultés, ou amène des difficultés. Et c'est pour ça que je voudrais, d'ailleurs, toute mon admiration, exprimer mon admiration à Linda, parce que ça démontre de la résilience. Faire un sentier dans une forêt ancienne, ce n'est pas un sentier bien pavé en poussière de roche comme on en voit, par exemple, au Parc national du Mont-Saint-Bruno. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça reste une forêt et un parc indigène. Et c'est pour ça que, en fait, vous le savez, dans l'engagement que nous avons pris d'Isaac, on parle toujours, on ne parle pas de wilderness, on parle d'un territoire, un territoire pur, mais qui est habité à la fois par la faune, la flore et des personnes humaines. Et dans ce sens-là, oui, il y a une difficulté, mais tout le monde l'a relevé. D'ailleurs, il y a des photos, des photos extraordinaires où on se demande comment on va passer, puis finalement, on réussit à passer.
Ben, c'était peut-être expliquer aux gens là, qu'il fallait se glisser des fois sous les arbres. Il fallait grimper par-dessus les troncs. Mm-hmm. D'ailleurs, merci aux cinq garçons qui m'ont accompagnée à la fin pour m'encourager, puis décrire aussi mes prouesses.
Oui, parce que, en fait... vous aviez un tout petit peu de difficulté parce que vous aviez subi une intervention chirurgicale pas longtemps auparavant. Et puis, votre détermination, comme disait Michel, votre ténacité a fait en sorte que vous êtes allé jusqu'au bout, vous vouliez aller jusqu'au bout. Et on a trouvé toutes sortes de formules magiques pour vos prouesses. C'était vraiment intéressant.
Ma plus belle expérience. Mais il faut dire que j'avais des difficultés, mais je ne suis pas très grande. Alors, les troncs, si le tronc a 3 pieds de hauteur, c'est pas facile pour moi de le franchir.
C'est ça, sans bâton.
Sans bâton.
C'était à peine balisé. Alors, je pense que nous avons tous été étonnés de la taille de ces arbres. Qui font plusieurs mètres de diamètre. Et on peut mettre jusqu'à quoi? 10, 12 personnes pour en faire le tour.
Oui. Alors, on peut s'imaginer effectivement l'estime et l'admiration que pouvaient avoir les Premières Nations devant ces géants qui leur fournissaient la possibilité d'aller sur l'eau, de faire des embarcations. C'est pour ça qu'on les sculpte là-bas. Si nous, on est habitués ici aux embarcations indigènes en peau de ou en écorce de bouleau, ainsi de suite, là-bas, c'est carrément sculpté à même l'arbre. Donc, l'arbre devient une dépouille extraordinaire. Non seulement il conserve son carbone, il n'est pas brûlé, mais en plus, il sert à ces gens-là à aller se chercher de la nourriture dans l'océan. Donc, il y a vraiment quelque chose de très complet dans l'arbre et c'est normal qu'on l'investisse de tout ça parce qu'on fait des longhouses avec aussi, on fait des totems avec aussi. Donc, il y a tout un rapport à la fois naturel, mais aussi spirituel avec l'arbre.
Spirituel, c'est intéressant comme qualificatif, Michel, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui se sentaient... vous avez mentionné, Linda, le parc jurassique. On a un peu cette impression-là. Mais il y a aussi une pression dans l'atmosphère. Il y en a certains et certaines qui se sentaient un peu opprimés parce que on ne voit pas toujours le ciel. C'est très dense. Il y a beaucoup d'humidité dans l'air. C'est quand même
Il y a pas d'oiseaux.
Spécial.
Et c'est ce qu'on a vu. Il n'y a pas de
faune. Oui, c'est ça.
Visible.
Très peu d'oiseaux, on en a vu peut-être un ou deux dans l'ensemble de notre séjour là-bas.
En fait, vous vouliez dire oppressé, parce qu'en fait, un arbre n'est pas un oppresseur, mais on peut se sentir oppressé.
très juste.
Par l'atmosphère, parce que c'est lourd d'oxygène, alors
Alors, ça a été un moment magique que la découverte de ces anciennes forêts pluviales. Et on s'est fait des amis. Les arbres sont devenus nos amis, justement.
Oui. Et on peut aussi mentionner que cette bataille qui a préservé cet écosystème si précieux a donné et a inspiré la communauté locale à créer les Tribal Parks et les Tribal Park Guardians. Je le dis en anglais parce que finalement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ce sont des jeunes des Premières Nations qui ont été formés en écologie et qui aujourd'hui s'assurent de la préservation de ces milieux-là pour le plus grand plaisir, évidemment, des marcheurs qui acceptent de traverser
Le plaisir et la sensibilité à l'importance de la nature au changement climatique.
Oui.
C'est tout un cadeau qu'on nous a fait. Là.
Oui, puis en même temps, ça nous démontre aussi le travail de la durée. Dans une société de consommation, on n'est pas habitué à la durée. Hein? On a parlé plutôt d'obsolescence et les gens sont choqués, puis avec raison, qu'on veut arrêter ça. Quand on voit un arbre de 2000 ans, on ne peut pas faire autrement que d'apprécier la durabilité, c'est-à-dire une histoire longue, pas un short story.
Alors, nous avons quitté les anciennes forêts pluviales pour aller à un endroit qui s'appelle le parc provincial Makina, c'est-à-dire le Hot Spring Cove. On s'est laissé glisser dans une eau sulfureuse et chaude. Vous nous décrivez, Michel. Dans une ancienne forêt pluviale.
Absolument.
En fait, une petite anecdote, c'est qu'on voyait des arbres de 500 ans, 500-600 ans, et ils avaient l'air tout jeunes à côté de leur ancêtre. C'est cocasse, quand même.
Vous avez remarqué d'abord que c'est un territoire qui est très abrupt. C'est des montagnes carrément qui se jettent dans le Pacifique. Oui, il y a des arbres, bien sûr, mais couper des arbres dans cette région-là, ça serait épouvantable, non seulement un massacre écologique, mais un coût énorme de pouvoir opérer là. Maintenant, vous êtes allé dans des eaux thermales pour une raison très simple, c'est pas le seul endroit, il y a plusieurs endroits sur toute la côte du Pacifique, de l'Alaska à la Terre de Feu, qui représentent en fait des failles, si vous êtes familier avec la tectonique des plaques. Il y a des failles, effectivement. On est sur une grande faille, d'ailleurs, qui part, je dirais, du Mexique et qui remonte tout le long de la côte. Il y a Saint Andreas, qui est la plus connue
en Californie.
Mais ces failles-là se poursuivent, viennent au Canada, évidemment, entre autres l'île de Vancouver et la côte comme telle, Vancouver comme telle. C'est aussi une des zones sismiques. Et c'est la même chose du côté ouest de l'île. Et là, ça remonte beaucoup plus haut parce qu'on s'en va à Haida Gwaii ensuite, c'est-à-dire les îles de la Reine Charlotte. Ces eaux thermales viennent d'une faille à peu près d'une profondeur de 5000 pieds. Elle est évidemment pulsée vers le haut. Et là, elle rencontre l'eau du Pacifique et les deux se mêlant ensemble dans ces cavités-là forment des bassins. Évidemment, ce sont des bassins naturels. Les gens peuvent effectivement, avec leur conseil en tous les cas, de chausser des chaussures en caoutchouc, des chaussures d'eau, pour aller tout simplement s'installer sur une roche et tout ça dans cette eau chaude. Voilà. Et c'est un parc provincial. En fait, la province de la Colombie-Britannique a été très proactive pour faire des parcs provinciaux dans beaucoup d'endroits extrêmement sensibles. Et ça, c'en est un, entre autres, le Makina Park, qui est déjà à 1h30 de bateau là, de Tofino. Ce qui a permis aux gens, d'ailleurs, de voir des loutres des mers, les fameuses loutres qui ont fait la fortune pendant un certain temps, des marchands, mais aussi des populations indigènes, puisque c'était un commerce qui était très lucratif. Il y a des loups. C'est une zone aussi où on pourrait apercevoir effectivement des cougars parce que dans l'arrière-pays de ces forêts-là, il n'y a plus rien là, pendant des kilomètres et des kilomètres. Ça pourrait être un ours noir et tout ça. Mais dans le fond, quand on est avec les Premières Nations, on dirait qu'on n'a plus peur de ça. On n'a plus peur de la faune puisqu'on est avec des gens qui la connaissent si bien et qui n'ont pas de problème, hein, de doute envers...
C'est tout à fait naturel.
Voilà. Exactement.
Ce que j'ai noté aussi sur ce parc provincial, c'est un sentier aménagé, construit d'une très grande qualité et aussi avec des endroits où l'on peut méditer. Alors là, je dois dire que sur Mears Island et d'autres endroits, imaginez un centre de méditation. Nous étions 12-13 en deux équipes et nous avons passé une heure ou deux tout simplement à méditer dans cette ambiance, dans cette atmosphère tout à fait hors du commun, magique. Il y a un calme qui s'est installé très rapidement aussi. Là. On sentait vraiment faire partie de la nature, Linda.
Je suis d'accord. Malheureusement, je n'ai pas fait cette journée de marche-là. Je vous envie.
Oui. En fait, juste pour t'expliquer, c'est vrai, il y avait quelque chose qui nous enveloppait complètement parce que ce jour-là, il pleuvait. Il y avait ces embruns de la mer. Il y avait ce son des vagues du Pacifique. Mmh. C'était d'ailleurs une de ces grandes et longues plages sauvages qui est très fréquentée par les surfeurs. Mmh. Il n'y en avait pas ce jour-là parce que d'abord, il n'y avait à peu près pas de visibilité, mais on sentait toute la force et l'énergie d'un océan. On pouvait même marcher pieds nus. C'était facile parce que c'est du sable bien tapé. Les plages sont très, très profondes. Et donc, on a marché des kilomètres et des kilomètres et ça se prêtait. Et si je peux prendre une analogie, vous êtes allé déjà dans une immense cathédrale européenne, mettons par exemple, avant qu'elle passe au feu, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on a, peu importe qu'on y croit ou pas, quand on entre dans un tel endroit qui nous environne complètement, il y a comme quelque chose qui rejoint le sacré en nous. Ben, quand on est sur une plage du Pacifique sauvage comme celle-là et qu'on marche, dans le silence, mais essentiellement enveloppé dans cette espèce de tulle d'humidité extraordinaire avec ce son-là, on ne peut pas faire autrement que de rejoindre en nous, moi, en tout cas, une part de moi-même que je n'ai vraiment pas l'habitude de toucher. Il y a comme un moment, c'est, je sais pas, Julien Green, à un moment donné, qui parlait dans un de ses livres d'expérience au sommet, par exemple. Mm-hmm. Tu sais, une expérience qui n'est pas intellectuelle, mais qui est beaucoup plus dans l'affect que dans l'intellect. Et de le vivre avec un intellect rationnel, mais très clair, ça nous porte dans une autre dimension. Et c'est ce que les gens ressentent, je crois.
C'est intéressant ce que vous dites, l'analogie de la cathédrale, parce que un tout petit peu avant l'arrivée à Tofino, il y a un endroit qui s'appelle Cathedral Grove, justement. Donc, il y a ces arbres presque millénaires aussi. Et Cathedral Grove, c'est également le nom de ces arbres géants, les cèdres rouges en Californie, donc le même nom. Alors, l'inspiration a débordé un peu les frontières.
Ah ben oui, voilà. Ben, merci beaucoup. Le raccord est excellent. On voit qu'il y a du métier ici.
Ben, il y a surtout de la passion parce qu'une fois qu'on a vu ces arbres-là, qui sont un peu différents parce que les forêts sont un peu plus dégagées que les anciennes forêts pluviales, elles ont laissé place à des arbres d'encore une fois 700 ans, 800 ans. Et en fait, il y a eu un feu il y a quelques siècles dans cet endroit-là. Et les plus jeunes, ben, ils ont quand même 300-400 ans. Alors, pas si mal. Oui, Linda?
Si on parle des feux, ce qui m'a frappé sur Mayor's Island, c'est qu'on pouvait voir un énorme tronc avec, à l'intérieur, vide. On voyait qu'il y avait eu, finalement, un éclair qui a probablement fait brûler. Mais ça ne s'est pas étendu. C'est beaucoup trop humide. Mmh. Alors, c'est des arbres tout seuls, isolés, qui ont vécu la situation.
Et qui n'ont pas été l'étincelle
ça s'est
qui
pas
amène
répandu.
Une déflagration, c'est ça? Oui, pardon.
Alors, en terminant peut-être cet aspect de nos promenades, je m'en voudrais de ne pas mentionner les magnifiques couchers de soleil. Le coucher de soleil sur le Pacifique. Et le Pacifique, c'est intéressant parce que ici, dans l'est du Canada, lorsqu'on va vers la mer, on pense à la France, on pense à l'Europe. Là-bas, c'était tout nouveau. Et la mer, c'est à l'infini, bien sûr, mais là, c'est la Chine, c'est le Japon, c'est l'Asie. Ça change quand même la perspective, ce qu'on ressent.
Oui, mais aussi, moi, il m'est arrivé, j'étais avec ma petite fille de 3 ans à l'époque, et puis on est sur le Wild Pacific Trail à Ucloelet. Hein? Donc, on est carrément... C'est le Pacifique, mais c'est un Pacifique qui n'est pas du tout un Pacifique de plage, un Pacifique d'une côte. D'ailleurs, on l'a appelé un cimetière marin parce que ça a été très difficile. Et on est capté par ce qu'on voit. Ah, donc, ma petite fille, elle prend sa sieste. Je m'assois à côté. Il y a des petites alcôves qui se prêtent beaucoup à la méditation, d'ailleurs. Et je vois au loin, mais je n'y pense pas, des évents sortir de l'océan comme ça.
Ah oui.
Mais comme je suis en méditation, je me pose la question pour finalement réaliser que j'étais devant une harde de baleines. Mais c'était, ça se passait peut-être à 4-5 kilomètres d'où j'étais. Mais il y avait donc, c'était venu me chercher carrément. Et pourtant, ça ne représentait rien. Si tu regardais l'horizon, mais sans vraiment t'attarder à rien, tu n'aurais rien vu. Mm-hmm. Tu sais, il y a comme des moments là, de grâce comme ceux-là qui se passent dans de types d'environnement. Et oui. Le Wild Pacific Trail de Ucloelet, tu as Fino d'un côté de la péninsule et tu as Ucloelet de l'autre côté. Le côté de Ucloelet est évidemment moins fréquenté parce qu'il n'y a pas de plage à offrir. Mais ce qu'il a à offrir, cependant, c'est ces rochers extraordinaires le long du Pacifique. Et ça aussi, ça vaut la peine. Voilà.
Les petites alcôves aussi.
Ah, oui.
C'est vraiment charmant. Et puis, on a l'impression là, d'être que c'est fait juste pour nous. Alors, il y a plusieurs petites alcôves. C'est bien conçu.
Ouais. Alors, on se laisse sur ces belles images, encore un peu de musique. Et Michel, on revient à certains messages que nos hôtes nous ont transmis. Alors, nous voici de retour avec Michel Desgagnés et Linda Liboiron. Michel, nos hôtes de la communauté autochtone de Tofino nous ont laissé quelques messages importants et je me demandais si vous pouviez peut-être nous en rappeler quelques-uns.
D'abord, lorsque nous sommes arrivés, après un très, très long voyage, parti très tôt le matin de Montréal et arrivant assez tard en fin de journée à Tofino, nous étions dans un état, je dirais, de fatigue qui fait que on avait besoin d'être accueillis doucement. On avait besoin d'être accueillis sans tambour ni trompette, là, et simplement, mais un message, en tous les cas. Un message que nous avons tous très bien capté, puisque Sitcha avait emmené son tabourin, son, ce qu'on appelle un traditional drum, tabourin, et a d'abord commencé à nous saluer dans sa langue, le Talaukiat.
Oui.
On n'y comprenait rien, mais au ton de sa voix,
oui.
On comprenait que nous étions les bienvenus.
Et le petit tambour aussi.
Et là. Le petit tambour.
C'est une espèce de chant de réjouissance de pouvoir nous accueillir.
Donc ça, il y avait déjà un message là qui nous emmenait dans la douceur en tous les cas, puis la simplicité. On verra ce que ça donne, mais pour le soir même, voilà. Mais le lendemain matin, j'en ai parlé au début, à mon avis, on a vécu un grand moment de communication. Je dirais à plusieurs niveaux, hein, parce qu'on est devant d'abord un totem qui a été érigé le 1er août dernier, qu'on a appelé le Nawas Arising. Nawas Arising, c'est-à-dire, je dirais presque... Nous, on est familiers au Québec avec la notion de révolution tranquille, c'est-à-dire une transformation profonde d'une société tout en se modernisant et en se respectant, en respectant à la fois son passé, mais en vivant son présent en... dans une expérience transformative. Hein? Je parle peut-être des mots trop...
Non, c'est bon.
Alors, et là, on est tous assis. On est tous assis. Puis la veille, on avait quitté Montréal. Là. Et le lendemain, on est assis dans un parc avec des arbres autour de nous et un magnifique totem. Et là, Sitoua apporte en même temps un grand cadre dans lequel il y a tous les éléments de l'engagement que nous allons prendre après le scénario du totem.
Voilà.
Et pour moi, ça a été de nous prendre par la main, de vulgariser. Tu sais, on parle d'Hubert Reeves. Hubert Reeves était un être lumineux, mais la personne qui était devant nous ce matin-là, avec le totem, était un être lumineux. Et nous avons tous suivi la trajectoire. Que ce soit, par exemple, ce fameux... de mer, là, de serpents de mer mm-hmm. qui entouraient chacune des figures et qui nous déclinaient les générations de génération en génération et des anciens vers les plus jeunes. Comment passer à travers ça la connaissance, la façon de survivre et de vivre dans des milieux hein, qui, à l'époque, n'avaient pas de voiture, n'avaient pas d'électricité, n'avaient pas ci, n'avaient pas ça. Mm-hmm. Et ensuite, de prendre un engagement collectif en 10 phrases, ou peut-être autour de 10 phrases, où nous répétions ce que Sitcha nous disait, nous le répétions à haute voix, un peu comme on pouvait faire à un certain moment donné dans nos cours de pastoral ou ainsi de suite, lorsqu'on prenait un engagement,
Et Linda, oui.
Oui, bien peut-être, ce que je voudrais peut-être juste apporter, c'est que le fait de faire un engagement en groupe, c'est beaucoup plus fort que de faire un engagement seul. Mm-hmm. Même si nous, on se fréquente pas si souvent que ça, on a le regard de l'autre parce qu'on sait qu'il a fait la même chose que nous. Alors, c'est vraiment puissant. Vous avez parlé de douceur aussi. Ça a été très important. Puis peut-être que un petit aparté encore une fois, va se rattacher, c'est qu'on parle beaucoup de décolonisation. Puis moi, j'aime pas beaucoup cette expression-là parce que je trouve qu'il y a un élément de culpabilité très fort envers la population en général. Puis le cheminement pour comprendre l'autre nation en face de soi, dialoguer, il faut pas que ça soit de la culpabilisation. Puis, je pense que c'est un chemin que tout le monde prend. Et puis, petit à petit, au fil de nos aventures, au fil de nos rencontres, on comprend mieux. Puis, moi, je peux en parler un peu parce que j'ai travaillé dans un parc historique. Et puis, on partait de zéro des fois, là, avec les personnes, tu sais, dire les Iroquois étaient méchants, les Hurons étaient bons. Mais non, ils sont pareils. C'est la même culture. Mais déjà, si les gens avaient compris qu'il y avait des différences dans ce qu'ils pensaient, tu sais, donc, ça, c'était une étape. Mais il y a d'autres étapes, je pense, qui sont importantes à respecter, puis c'est le cheminement personnel. Ça fait que je pense que de toujours parler de décolonisation, ça brusque une partie de la population, puis ça fait pas avancer les choses. Mais une chance, là, de plus en plus, on voit des émissions à la radio, à la télé. Je pense à Pour toi, Flora, qui a tellement bien mis en valeur le système des pensionnats, sans culpabilisation, mais ça l'a montré les choses un peu de façon poétique, mais c'était puissant. Alors, voilà, c'est ça que... C'était mon petit aparté.
C'est bon parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, même au début de l'émission, parce que ce message de nos autres, justement, que vous avez très bien transmis, Michel, à la base, c'est le respect. Alors, le respect semble être le mantra, le mot-clé, si vous voulez, des Premières Nations, ceux qu'on a rencontrés là-bas.
Je pense que on ne peut pas, c'est devenu maintenant incontournable parce que je trouve que Linda est très juste dans ce qu'elle dit, le terme décolonisation. On pourrait le voir, je parlais de la Révolution tranquille tantôt, on s'est décolonisé dans une certaine mesure comme peuple à ce moment-là et on a vu avec nos artistes, notre imaginaire et tout ça, une efflorescence. Je pense que quand on parle de décolonisation maintenant, c'est une sorte de révolution tranquille, pacifique, en tous les cas, ça c'est sûr, mais de reconnaissance d'abord que nous avons une sorte d'ignorance à combler face aux Premières Nations pour arriver véritablement à une réconciliation. Et dans ce sens-là, le voyage que nous avons fait, et j'espère le répéter d'ailleurs, c'est cette espèce de démarche, de pèlerinage, si on veut, aussi dans notre propre conscience, face à ceux qui nous accueillent. Et effectivement, on peut être étonné d'être accueilli. Moi, en tout cas, ça m'a touché, puis j'y pense encore aujourd'hui. J'ai hâte de répéter la chose avec beaucoup de monde aussi, si c'était possible.
Alors, en attendant, je vais vous demander vos impressions, parce que le temps file, on pourrait poursuivre longtemps, mais en quelques secondes ou une minute, qu'est-ce qui reste d'un voyage comme ça, où nous avons mis les pieds dans des forêts anciennes, pluviales, nous avons rencontré de façon très près des représentants des Premières Nations. Qu'est-ce qui reste d'un voyage comme ça? Michel, Linda,
Linda, vas-y. Okay.
Ben, une chaleur humaine, ça c'est sûr.
Oui.
Avec tous les gens, les participants, mais aussi notre cuisinier, la personne qui faisait la vaisselle, etc. Voilà. Mais les forêts pluviales, leur importance et leur majesté. Puis bien sûr, les Amérindiens qu'on a rencontrés.
Et Michel?
Je pourrais paraphraser Linda, parce qu'en fait, Linda a très, très bien résumé. Je pense que tout le monde a capté, d'ailleurs, dans les 24 personnes que nous étions. On est tous revenus avec cette espèce de désir d'échanger. Mm-hmm. Et puis, là, tu viens de me passer quelque chose qui me touche beaucoup, puisque c'est rendu mon mantra maintenant. Ishuknish Tsawak. Et si on le traduisait, toute chose est une et tout est interconnecté. Et c'est vrai que Ishuknish Tsawak, c'est un peu le message que nous a laissé également Sitcha lors de ses présentations.
Mm-hmm. Oui. Ben, c'est une très belle façon de terminer notre conversation aujourd'hui. Et j'ajouterais que, Linda, vous avez parlé de cette exposition au Musée McCord. J'ai vu celle au Musée des Beaux-Arts des Autochtones de la Colombie. Nous avons voyagé à Vancouver. Il semble que le message soit partout pareil. Wendake, c'est pareil. Mm-hmm. En fait, le beau message de respect de l'autre vers une meilleure entente entre les peuples.
C'est
formidable. Alors, Michel, merci beaucoup. Linda, merci beaucoup.
Merci.
Et ce sujet de la décolonisation, nous en parlerons au cours de la saison, toujours en lien avec la marche. Encore une fois, merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir invités.
Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode, dont celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup à nos invités Michel Degagné de Santé à pied et Linda Liboiron. Merci également à notre toujours aussi attentif et sympathique technicien Lysandre Duplay. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée de Isaac Asimov. Tous les ennuis que nous voue la vie moderne sont dus à ce qu'il y a divorce entre la nature et nous. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.